Deutsche Welle. L'Afrique en débat.
À quoi sert la francophonie à l'heure de la mondialisation? Dans l'Afrique en débat aujourd'hui, focus sur cette organisation qui est réunie en ce moment à Kinshasa en République démocratique du Congo. Et pour son coup de gueule, Henri Fotso nous parlera de football avec ces pays africains qui font plus confiance à des sélectionneurs européens qu'africains. Encore un autre complexe, nous dit-il. En ligne avec nous pour cette Afrique en débat, Latif Koulibaly, ministre conseiller à la présidence sénégalaise chargé des questions de gouvernance. Bonjour, monsieur le ministre Koulibaly.
Bonjour.
Et merci d'être en ligne avec nous de Dakar. Et avec moi en studio, Baba Barry et Ramata Soré, deux confrères de la rédaction francophone de la Deutsche Welle. Bonjour.
Bonjour.
L'Afrique en débat, nous sommes ensemble pour 25 minutes à ce micro. Georges Ibrahim Tounkara, bienvenue. Bonjour. Depuis donc ce vendredi, 75 États et gouvernements sont réunis à Kinshasa, en République démocratique du Congo, à l'occasion du 14e sommet de la francophonie. 42 ans après sa création, de nombreux Africains s'interrogent encore sur l'intérêt de cette organisation. Qu'apporte-t-elle concrètement aux pays qui en sont membres? N'est-ce pas là une autre forme de perpétuation de l'emprise de la France sur ses anciennes colonies? Avant de répondre à ces questions, voyons quel est l'intérêt de ce regroupement. On écoute le porte-parole de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, Hugo Sada, joint à Kinshasa.
Ben écoutez, la francophonie, c'est une idée qui vient de très loin, qui vient de la fin de la colonisation, quand un certain nombre de grands leaders du Sud, le président Senghor, le président Bourguiba, le président Amani Diori, ont souhaité construire entre pays francophones une communauté solidaire. Ça sert à deux choses. Ça sert à défendre une langue, des valeurs communes, et puis ça sert à mettre en œuvre un certain nombre d'actions liées à la diversité linguistique et culturelle, et puis à la deuxième jambe de la francophonie, qui sont les valeurs, donc la paix, la démocratie et les droits de l'homme.
Le porte-parole de l'Organisation internationale de la francophonie, Hugo Sada, que nous retrouverons à nouveau au cours de cette émission. Mais avant, monsieur Latif Koulibaly, vous êtes en ligne de Dakar. Quel regard jetez-vous aujourd'hui sur cette organisation qu'est la francophonie?
Écoutez, la francophonie, c'est à l'image de beaucoup d'organisations internationales. Les gens adhèrent par volonté de coopérer et par également volonté de préserver des liens, soit culturels, économiques, des liens historiques. Dans le cas précis de la francophonie, également des liens procédant de l'usage commun d'une langue de travail pour nous, Africains, d'une langue à la fois de travail, une langue également culturelle en France. Je pense qu'il ne faut pas non plus croire que l'organisation n'a servi à rien. Ce n'est pas tout à fait vrai. Dans certains cas, il a pu servir à aider la formation de beaucoup d'Africains par le bourse de la francophonie, par également une assistance assez soutenue aux universités africaines, mais francophones en particulier. C'est vrai qu'il y a donc beaucoup de choses à faire, mais il ne faut pas trop rêver.
Bon, Barry, vous venez d'écouter M. Latif Koulibaly qui dit que le bilan est mitigé. Il y a certains Africains qui pensent que c'est la suite du système colonial. Comment vous réagissez à cela?
Ben moi, je dirais oui. La francophonie, c'est le prolongement du colonialisme en Afrique. La colonisation, c'était pour piller les ressources minières dans les pays colonisés. La francophonie permet à la France d'asseoir sa puissance économique mais aussi politique sur la scène politique mondiale. Sans le précaré français, sans les pays de la francophonie, par exemple, la France n'aurait jamais obtenu un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Je veux dire que la France n'est pas économiquement plus forte que l'Allemagne ou encore le Japon, mais ces pays n'ont pas un seul membre au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. La France...
Le siège permanent au Conseil, c'était à la suite de la Seconde Guerre mondiale.
Hein. Oui, mais il faut pas
perdre... C'était les vainqueurs.
Oui, mais il faut pas perdre de vue que la France a été soutenue par l'ensemble des pays qui constituent un grand marché. La France a eu besoin de la francophonie des pays, notamment africains, pour montrer qu'elle avait une puissance politique, qu'elle avait des amis politiques qui pouvaient soutenir sa politique internationale au sein des organisations organisations internationales comme les Nations Unies.
Ramata Soré, vous croyez vous aussi que la francophonie, c'est un instrument qui est plus au service de la France que des pays africains qui en sont membres?
Oui, si les Français eux-mêmes croient à ça, pourquoi moi je devrais croire le contraire? Et j'aimerais citer bien Jean Jaurès en 1884 qui disait que pour la France, la langue est l'instrument nécessaire à la colonisation. Plus d'écoles françaises aideront les colons français dans leur difficile tâche de conquête morale et d'assimilation. Et on voit que plus de 50 ans après l'indépendance, c'est ce qui continue. Parce que l'éducation, le système éducatif dans ces pays, qu'on dit francophone, là, c'est quoi? C'est le français. Tout est fait à base du français, avec le français. Même l'alphabétisation qu'on dit, qui devait se faire avec les langues locales. Non, c'est fait en français. Donc, ça veut dire que c'est tout un système d'éducation qui est lié à un système économique et politique qu'on perpétue. Dans ce...
Oui, mais de là à dire que c'est la suite, c'est le prolongement de la du système colonial, il n'y a qu'un pas que
évidemment,
vous allez
puisque
franchir.
Bob Barry vient de donner l'exemple concret en donnant des faits.
Monsieur Latif Koulibaly, est-ce qu'il n'y a pas une part de vérité dans tout ce qui est dit là, que la francophonie aussi, c'est un peu la suite hein, du système colonial? Il n'y a pas une part de vérité dans cela?
Écoutez, moi, je ne conteste pas le point de vue respectable que mes deux interlocuteurs ont eu par rapport à la compréhension qu'ils ont du rôle de la francophonie comme étant un instrument au service de la politique française sans de conduite. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que la France peut bien avoir des intentions de prolonger la colonisation, c'est nous. Mais nous avons la responsabilité à la fois nationale, historique et patriotique, nous, de refuser cela. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une organisation nécessairement qu'il faille accepter que la France soit celle qui a un instrument de recolonisation de l'Afrique. Ça peut être bien le cas. Ça peut être bien également le contraire. Si toutefois les États africains assument leur responsabilité, le problème c'est moins la responsabilité de la France que la responsabilité des Africains. Quand nous avons librement adhéré, personne n'a été forcé à adhérer à la francophonie. Quand nous avons librement adhéré à la francophonie, je pense qu'à dès le départ, nous avons supposé que c'est une coopération, égalité de souveraineté, respect de souveraineté des uns et des autres. Effectivement, si, comme ils le disent, nous qui allons pour permettre à la France de reproduire son pacte colonial, nous devons nous en prendre qu'à nous-mêmes, les Africains, et qu'on ne devait pas se plaindre par rapport à eux autres. Je pense que le prolongement du pacte colonial, ce n'est pas nécessairement à travers la francophonie, c'est la structuration même de nos économies. Quand vous venez dans un pays comme le Sénégal, où 80% du capital qui est présent dans notre économie est un capital français, quand vous comprenez par ailleurs que quasiment toute l'aide la plus importante qui nous est donnée vient de la France, je pense que la France a également besoin souvent de prolonger sa colonisation. Oui, c'est vrai, mais nous avons nos responsabilités à assumer par rapport à ça.
Si les pays africains sont, les pays francophones, ils sont toujours dans cette organisation, Bob Barry, c'est qu'ils y gagnent quelque chose. Est-ce qu'on peut avoir une idée quand même de quelques acquis au niveau de ces pays africains?
Ben, écoutez, l'analyse faite par M. Koulibaly est très pertinente. Et il parlait des entreprises françaises qui dominent les marchés africains. Quand on donne des bourses d'études aux étudiants africains pour venir en France étudier ou pour aller au Canada, en Belgique ou en Suisse romande pour étudier. Mais ce n'est pas gratuit. C'est fait de telle sorte qu'on construit, on modèle ces personnes-là pour qu'ils réfléchissent à acheter des produits produits dans ces pays.
C'est pour maintenir le lien avec la France. Alors, on vous a conseillé
c'est non seulement maintenir le lien avec la France, mais aussi, il ne faut pas perdre de vue, je dirais un exemple, la seule formation des Africains en langue française permet à la France de vendre en quasi-exclusivité la documentation pour les écoliers et étudiants des États d'Afrique d'expression française. Il est évident maintenant qu'il y a des universités numériques, il y a de l'investissement à travers la francophonie pour aider les étudiants africains à étudier sur place, à consulter des documents visuels en français sur place, à se mouvoir entre les pays francophones.
Mais avec l'AUF, l'Agence universitaire francophone.
Avec l'AUF, mais il y a aussi TV5 Monde qui travaille beaucoup sur le plan culturel pour reprendre le français dans le monde entier. Mais la conséquence, c'est quoi? C'est que les Africains abandonnent leur langue locale au profit du français. Et lorsqu'on est à deux dimensions de réflexion, lorsqu'on doit réfléchir dans sa langue locale et après réfléchir en français pour proposer quelque chose, ça devient une espèce de, je dirais pas, un couloir dans lequel les Africains restent. Il faut pouvoir donner la chance aux Africains de développer leur langue locale. C'est vrai, c'est de la responsabilité des chefs d'État africains parce que ces chefs d'État africains, pour la plupart, ou des dirigeants africains, sont prêts à financer financer des guerres, mais ils disent chaque fois qu'ils n'ont pas d'argent pour confectionner, pour collectionner des manuels scolaires édités dans les langues locales.
On vous a compris, hein, bien compris, compris Bob Barry. Ramata Souré, avant de vous retrouver, je vous propose d'écouter une nouvelle fois le porte-parole de l'OIF. Est-ce que la francophonie n'est pas en réalité un instrument au service de la France? On écoute Hugo Sada.
Non, ça c'est une vieille idée. Ça c'est une vieille idée, c'est un vieux mythe persistant. Mais la réalité de la francophonie, regardez l'histoire de la francophonie. Qui c'est qui a créé la francophonie? Qui c'est qui l'a structurée? Qui c'est qui lui a donné son ambition et ses valeurs? C'est des hommes du Sud, c'est le président Senghor, le président Bourguiba, le président Amani Diori. C'est des hommes du Sud qui voulaient construire une communauté de solidarité après la colonisation. C'est pas une invention de la France.
Mais le constat aujourd'hui, c'est que le président français, il vient au sommet de la francophonie pour décerner les bons et les mauvais points.
Mais le président français, il vient pour décerner les points qu'il veut décerner, mais il est pas le seul. Il y a une quarantaine, peut-être plus, de chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la francophonie qui viennent et qui vont dire aussi ce qu'ils pensent.
Concrètement, Monsieur Hugo Sada, qu'est-ce que les pays africains gagnent en étant dans cette organisation qu'est la francophonie?
Bah écoutez, posez-leur la question et vous verrez bien que dans les domaines de l'éducation, de la langue, de la paix, des de la démocratie, des droits de l'homme, ils y trouvent leur compte et c'est pour ça qu'ils sont toujours là.
Vous êtes en République démocratique du Congo. Que fait la francophonie dans les pays en crise comme la République démocratique du Congo ou le Mali?
La campagne, elle appuie dans ses domaines de compétences les processus de sortie de crise. Ici, en République démocratique du Congo, on a travaillé sur le processus électoral, sur la mise en place des institutions d'état de droit. Et voilà, les choses se construisent. C'est la démocratie, ça ne se décrète pas en 3 minutes. On dit, voilà la démocratie et tout marche. Hein.
Est-ce qu'il n'y a pas menace sur la francophonie dans le contexte de mondialisation que nous connaissons depuis quelques années? On voit des pays comme le Rwanda ou le Gabon qui veulent aller à l'anglais.
Je ne crois pas. Non, ça c'est des histoires, ça. Ça c'est des histoires. Au contraire, il y a de plus en plus de raisons de penser que ce développement est utile. Et je pense qu'il est tout à fait normal que un certain nombre de pays, pour des raisons tout à fait légitimes, aient envie de pratiquer le multilinguisme et de trouver leurs intérêts. Mais ça ne veut pas dire quand ils veulent développer l'anglais qu'ils abandonnent le français. Hein.
Alors, M. Hugo Sada défend très bien la francophonie, c'est le porte-parole de l'OIF, donc ce n'est pas étonnant. Oui. Ramata Souré, quels sont selon vous les véritables acquis de la francophonie aujourd'hui hein, quand on prend les pays africains?
C'est comme il a dit, ça permet par exemple à la France et aux pays occidentaux de distribuer ce qu'ils appellent les bons points et les mauvais points aux bons élèves et aux mauvais élèves. La preuve, c'est-à-dire en 1991, la francophonie devait être organisée au Congo RDC. Mais parce qu'ils appelaient Mobutu à cette époque-là dictateur, ça a été renvoyé à Paris et la francophonie a été organisée là-bas. Mais on constate encore que ce sont ces mêmes pays qui ont proposé les différents critères de démocratie qui traitent encore la RDC de ne pas être démocratique. Quand on me dit que non, la francophonie n'est pas sous la houlette de la France, je dis non. Parce que lorsqu'on prend même la mission même de cette structure-là, c'est quoi? C'est d'organiser les relations politiques de coopération entre les États ayant en partage la langue française et le respect des valeurs universelles. Je suis d'accord pour les valeurs universelles, mais je suis désolée, mais la langue française, c'est pas ma langue maternelle. Ma langue maternelle compte plusieurs millions d'Africains, c'est une autre langue. On utilise cette suprématie de la France là, quand bien même cette structure même est une création de chefs d'État africains, mais ils ont leur intérêt, ils sont formés, ils sont moulés dans un système que je dirais colonial qui a été perpétué jusqu'à présent et qui devient post-colonial.
Il y a un constat qui est fait, Monsieur le ministre Latif Koulibaly, depuis quelques années, la France qui ferme ses frontières aux Africains, et même aux Africains francophones en principe, hein, ils ne devraient pas avoir ces barrières, nous sommes tous francophones. Est-ce qu'il n'y a pas un danger aujourd'hui du fait que de nombreux Africains se dirigent vers le Canada, vers les États-Unis et vers la Chine? Est-ce qu'il n'y a pas menace sur la francophonie même? Parce que ces jeunes étudiants, à leur retour, hein, ils seraient tentés de faire changer les choses.
Écoutez, moi, je ne peux pas vous dire s'il y a une menace ou il n'y a pas de menace. Ce genre de regroupement entre les quatre, qu'on appelle francophonie ou qu'on l'appelle Commonwealth, ou qu'on l'appelle... C'est une façon d'organiser les relations internationales, la communauté internationale. Maintenant, quand on y adhère, on doit savoir pourquoi on y adhère. Que la France veut bien l'utiliser comme instrument de développement de sa politique. Je n'ai aucun doute par rapport à ça, parce qu'aucun pays africain n'a été obligé à adhérer à la francophonie. La preuve, l'Algérie n'est pas membre de la francophonie. Je crois même que la Tunisie n'est pas membre de la francophonie. Enfin, non, ils sont membres plutôt. Mais voyez-vous ce que je veux dire par là? les Africains sont libres d'aller à la francophonie. Non. Tout à l'heure, le Camille Barry a dit quelque chose qui est vrai en disant que le douce que la France donne n'est pas gratuit. C'est vrai, mais je vous rappelle que dans le cas du Sénégal, la France n'a pas donné depuis plus de 5 ans plus de 300 bourses au Sénégal, en tout cas pour l'éducation nationale. C'est vrai, les plus gros investissements qui viennent en Afrique des années ne sont pas français. Ils parlent chinois et les Chinois n'ont pas de francophonie. S'il faille dire aujourd'hui que la francophonie va nécessairement servir à perpétuer les intérêts français au Sénégal, ou en Guinée ou Burkina Faso, c'est la responsabilité de l'Africain de l'étudier. Je dis qu'il faut être réaliste par rapport à ces questions-là. Réalisme, c'est quoi? C'est dire, voilà un cadre de coopération. Quels sont les objectifs et les ambitions que nous avons par rapport à ça? Ce n'est pas la France de nous faciliter les choses, c'est nous, les Africains, qui devons assumer les responsabilités. En toutes circonstances, comme ce soit la division, pourquoi que la France va faire en sorte que 80% des interventions de la francophonie sont exécutées aujourd'hui en Afrique? Il y a un intérêt politique derrière.
Ce sera la dernière question hein, en rapport avec la francophonie. Ramata Assouré, est-ce que vous avez noté des différences intéressantes entre la francophonie et une organisation comme le Commonwealth, par exemple?
Il faut dire qu'il n'y a pas une très très grande différence entre ces deux structures-là. La différence se situe au niveau des méthodes et des résultats qu'ils ont. Mais il faut dire que la quasi-totalité des pays membres de ces deux organisations-là sont d'anciennes colonies, colonies britanniques et françaises.
Bon, Barry,
je ne vois pas une très grande différence, sauf que si vous prenez les Anglais, ils sont beaucoup plus portés sur des résultats économiques. Ils veulent agrandir le marché britannique de par le monde. Si vous prenez les Français, ils sont encore plus ou moins beaucoup plus impliqués politiquement dans certains pays. On a connu, par exemple, le cas au Rwanda quand il y a eu le génocide, ce que cela a provoqué dans les relations franco-africaines. On connaît, on a d'autres exemples.
La Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire, la suspension de certains pays de la francophonie quand il y a eu le coup d'état militaire en Mauritanie en 2008.
Pour vous, la francophonie est politiquement trop présente.
Oui, mais ce que je regrette, c'est que après plus de 50 ans d'indépendance des pays africains, je regrette que les pays justement africains continuent de se faire manipuler au sein de regroupements coloniaux comme la francophonie. Je suis tout à fait d'accord avec l'analyse faite par monsieur le ministre Latif Koulibaly. C'est de la responsabilité des dirigeants africains et pour la plupart de ces dirigeants africains, il ne peut pas se passer malheureusement de la France. Aujourd'hui, ils courent tous pour aller à Kinshasa, non pas pour assister
à ce sommet,
mais parce que la plupart d'entre eux veulent tirer encore une fois la main à François Hollande.
Rapidement,
je dirais que il y a certains politiques qui prennent leurs responsabilités. Je prends par exemple le cas de Kagame au niveau du Rwanda.
Paul Kagame.
Oui, Paul Kagame au niveau du Rwanda. Avec l'implication de la France dans ce qui se passait au Rwanda, on a vu que Kagame a pris ses distances. Il a décidé, mais cette distance-là a été prise de façon rapide.
Anglophone.
Un pays francophone qui est devenu un pays anglophone. Et j'ajouterais aussi que je suis totalement d'accord avec le ministre lorsqu'il dit que en tant qu'Africains, nous devons prendre conscience de ce que nous sommes, de ce que nous voulons être.
On vous a tous compris, un peu de musique pour souffler et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette Afrique en débat. France-Afrique, Tikenja Fakoli.
La politique France-Afrique, c'est du blague et tuer. La politique Amérique-Afrique, ouais, c'est du blague et tuer. La politique France-Afrique, c'est du blague et tuer. La politique Amérique-Afrique, ouais, c'est du blague et tuer. Rastafari, yeah, man. La politique France-Afrique, c'est du blague et tu es. La
Tikenja Fakoli dans France-Afrique, l'Afrique en débat, toujours en ligne avec nous, le ministre Latif Koulibaly, ministre conseiller à la présidence sénégalaise, chargé des questions de gouvernance, et en studio avec moi, Ramata Soré et Bob Barry. L'actualité ce week-end sur le continent, c'est aussi les derniers matchs qualificatifs pour la Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN. Et pour être du nombre des meilleures équipes du continent et même de la planète, plusieurs fédérations sportives n'hésitent plus à s'offrir à prix d'or les services d'un sélectionneur international, alors que sur le continent, les techniciens de haut niveau ne manquent pas. On écoute le coup de gueule d'Henri Fotso.
Rares sont les pays africains qui, ces dernières années, n'ont pas fait appel à des entraîneurs occidentaux pour gérer leurs équipes nationales. Pourtant, sur le continent, les compétences ne manquent pas et demandent simplement qu'on leur fasse confiance. À titre de rappel, la seule Coupe d'Afrique des Nations remportée par la Côte d'Ivoire l'a été en 1992 avec Yeo Martial, un sélectionneur ivoirien. La Coupe du monde olympique de football a été remportée en 2000 à Sydney par le Cameroun avec Jean-Paul Akono. Ce sélectionneur camerounais qu'on vient de rappeler en catastrophe aux affaires. Si l'Égypte règne depuis des années sur le football africain, c'est surtout grâce à un sélectionneur égyptien, Hassan Cherata, triple champion d'Afrique avec la sélection égyptienne. Or, quand nos dirigeants font appel à un sélectionneur africain, pourtant nanti de tous les diplômes d'entraîneur, c'est toujours comme si c'était par dépit, en attendant de trouver le sorcier blanc, le technicien venu d'ailleurs. Pour un sélectionneur local, le salaire mensuel se situe généralement entre 500 000 et 2 millions de francs CFA, quand l'expatrié blanc se voit attribuer 20, 30, 40, 75 millions de francs CFA ou plus. Comment comprendre que plus de 50 ans après les indépendances, on continue de confier le destin footballistique des peuples africains à des expatriés, souvent sans gloire et parfois même sans expérience avérée? Que les éliminatoires de la CAN 2013 qui se jouent ce week-end amènent donc nos dirigeants à prendre enfin conscience de cette triste réalité en faveur des défis futurs.
Voilà, c'était le coup de gueule de Henri Fotso. Une réaction à ce coup de gueule, monsieur le ministre Latif Koulibaly?
Le coup de gueule par rapport à ça, mais je pense que chaque État a une réalité sur laquelle il travaille.
Bob Barry, vous êtes l'avant-centre hein, de l'équipe de la Dutch Welle, de l'équipe de football de la Dutch Welle. Comment vous réagissez à cette situation? On fait toujours appel à des entraîneurs expatriés en Afrique.
Ben, je pense que c'est le résultat qui compte, c'est évident. Mais moi, je sais aussi que la Guinée, par exemple, avait une très bonne équipe à FIFA 77 au temps du président Ahmed Sékou Touré, qui était dirigé par des nationaux et on a été triple champion d'Afrique des clubs. Hein. On a même gardé la Coupe Kwame Nkrumah.
On n'a jamais gagné la Coupe d'Afrique des Nations.
Non, oui, on n'a jamais gagné la Coupe d'Afrique des Nations, mais on a joué quand même la finale. On a joué la finale de la Coupe d'Afrique des Nations.
Les Ivoiriens ont eu la Coupe avec un entraîneur ivoirien.
Yeo Martial, oui. La Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec Yeo Martial.
L'Égypte a eu trois Coupes d'Afrique avec Sherpa.
Il faut dire que les résultats, on a eu beaucoup plus de résultats côté entraîneur africain dans les années qui ont suivi l'indépendance de nos États que ceux qu'on a aujourd'hui.
Jusque-là, l'Afrique n'a pas encore remporté de Coupe du Monde avec un sorcier blanc,
ça,
des sorciers blancs
arrivé.
Qui coûtent excessivement cher.
Très cher.
Une réaction, Ramata Soré.
Et ce qui est paradoxal dans tout ça, c'est qu'on a de très très bons joueurs. Quand je prends Drogba, il est plébiscité jusqu'en Chine. Mais pourquoi ces gens-là, lorsqu'ils partent à la retraite ou bien à la fin de leur carrière, ils ne peuvent pas être des entraîneurs? Ce sont des hommes valables, ce sont des compétences qu'on peut mettre.
Et c'est ce qu'on constate, la France, c'est toujours des Français qui sont à la tête de la sélection. En Allemagne, c'est toujours pareil. Dans d'autres pays, la liste est longue.
Non, mais c'est une question de souveraineté nationale.
Oui,
je ne peux pas prendre un Français pour le mettre à la tête d'une équipe nationale allemande.
Non, mais je pense qu'il y a des compétences. Moi, je pense
évidemment qu'il y a des compétences et on doit puiser dans ces compétences-là. Nous devons définir notre combat, nos priorités et trouver nous-mêmes nos solutions.
Coup d'œil à présent sur quelques événements à venir. Ce mardi 16 octobre, ouverture à La Haye, aux Pays-Bas, du dernier procès devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie de l'ancien responsable des Serbes de Croatie, Goran Hadzic. Le mercredi 17 octobre à Islamabad au Pakistan, reprise du procès de la jeune chrétienne pakistanaise, libérée sous caution mais toujours accusée d'avoir profané le Coran. Le jeudi 18 à Bruxelles, sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Le vendredi 19 à Windhoek, réunion du comité central de la SWAPO, le parti au pouvoir en Namibie qui doit désigner un candidat pour l'élection l'élection présidentielle de 2014. À Kigali, ce même vendredi, verdict attendu après deux reports du procès de l'opposante rwandaise Victoire Ingabire, poursuivie pour complicité de terrorisme et propagation de l'idéologie de génocide. Enfin, le samedi 20, en Libye, premier anniversaire de la mort du colonel Muammar Kadhafi, tué en octobre 2011 par des rebelles libyens. L'Afrique en débat, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous, Monsieur Latif Koulibaly, conseiller, ministre conseiller à la présidence sénégalaise. Merci donc d'avoir été en ligne avec nous de Dakar pour cette émission consacrée en partie à la francophonie. Merci également à vous, Boba Barry et Ramata Soré, d'avoir été là en studio avec moi. Et pour réagir à ce numéro de l'Afrique en débat, une adresse français@dw.de ou par SMS au 0049 176 64 12 12 63. L'Afrique en débat, c'est tous les dimanches à 12h05, temps universel, à dimanche prochain.